Alors, on va passer maintenant à un extrait d'une vidéo que je vous demande à laquelle je vous demande d'être attentif. C'est 3 minutes à peu près, donc ça doit être possible. On y va. On passe la vidéo, puis on regarde ce qui se passe. C'est bien compliqué. Hein. C'est un extrait du monde de Narnia. Qui ne connaît pas le monde de Narnia? Levez la main. Voilà, je parle des connes. Tout le monde connaît? Non? Ah, n'ayez pas peur, levez la main. Hein. C'est pour que je me rende compte, moi, voilà, simplement. Le monde de Narnia, c'est l'histoire, ici, d'une histoire qui était écrite par C.S. Lewis il y a une cinquantaine d'années, à peu près, et qui est sortie en film en 2003, je crois. C'est l'histoire d'un groupe d'enfants, de 4 enfants, qui partent à travers une armoire magique dans un pays imaginaire. Et dans ce pays imaginaire, ils sont amenés à affronter... Alors, il y a un grand lion qui s'appelle Aslan. Et ce lion, c'est une préfiguration, enfin, c'est une image, un symbole de Jésus. Et les enfants sont amenés... Les enfants sont amenés à combattre avec Aslan pour battre la sorcière, une sorcière qui est la figure, bien entendu, de notre ennemi à tous, de Satan. Et les enfants vont avoir la victoire. Il y a de magnifiques combats ici. Les enfants vont avoir la victoire. Et à la fin, ils ne vont pas rentrer directement dans leur pays, mais ils vont être nommés, ils vont être institués rois et reines de Narnia. Parce qu'ils ont vaincu avec Aslan qui représente Jésus. Et vous allez voir comment est-ce que ces enfants vont être nommés rois. Regardez bien la façon de faire, regardez bien, écoutez bien surtout ce qui va être dit. Ça va, je suis clair? Patricia, tu avais levé la main? Oui. Allez, on y va. Je m'assieds.
Splendeur de l'océan oriental, je vous présente la reine Lucie, la vaillante. La grandeur de la forêt occidentale, le roi Edmund, le juste, à l'éclat du soleil méridional, la reine Suzanne, la douce, à la lumière du ciel septentrional, je vous présente le roi Peter, le magnifique. Lorsque l'on a été reine ou roi de Narnia, on est reine ou roi pour toujours. Puisse votre sagesse nous honorer jusqu'à ce que le ciel nous envoie une pluie d'étoiles. Longue vie au roi Peter. Longue vie au roi Edmund. Longue vie à la reine Suzanne. Longue vie à la reine Lucie.
Ils ont été l'un et l'autre. Déjà, première remarque, l'un et l'autre ont été qualifiés. Il n'est pas, ce qui est souligné, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné des victoires. Hein. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'ils sont devenus qui est important et qui est souligné dans les termes ici. Alors, Pierre, c'est pas dans l'ordre, le magnifique. Suzanne, la douce. Edmund, le juste. Et Lucie, la vaillante. Il y a une semaine à peu près, dans la réunion des responsables de Mouchard élargi, voilà, c'est bien, on a des réunions en Zoom beaucoup, alors c'est un peu compliqué, mais c'est bien celle-là, il y a une prophétie qui était donnée, c'est que le Seigneur voulait que nous ait, à anoblir nos caractères. qu'on sait peut-être avoir un petit peu le lien avec ce qu'on vient de voir ici, anoblir nos caractères. Et c'est une prophétie qui m'a parlé. Je me suis dit, mais ça va être bien pour dimanche. Donc ce dont je voudrais parler ce matin, c'est dans un premier temps de la noblesse de caractère dont Dieu voudrait nous qualifier. C'est ce qui est fait ici avec ces rois et ces reines hein, alors le caractère, c'est magnifique, doux, juste, vaillant, etc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un caractère noble? Dieu veut anoblir notre caractère. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère noble? Alors pour moi, ça peut être un des quatre qualificatifs qu'on vient de voir ici. Le magnifique, la douce, juste, vaillant, c'est-à-dire brave, courageux. Mais il y a des caractères qui pourraient être mauvais. Il y a des caractères qui sont par exemple autoritaires, qui sont sournois, il y en a qui sont gais, il y en a qui sont souples, il y en a qui sont hargneux. Ça, ce sont des caractères différents. Mais Dieu veut anoblir nos caractères. Alors, un caractère noble, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui pardonne facilement. Un caractère anobli, c'est quelqu'un qui a cette capacité de réagir en pardonnant rapidement. Je ne dis pas en passant sur les choses, forcément. Des fois, il faut s'y arrêter, hein, sur les blessures qui ont été faites. Mais qui pardonne rapidement, qui ne calcule pas dans le pardon qu'il va faire, qui a cette faculté de pardonner rapidement. Quelqu'un qui a un caractère noble, c'est quelqu'un aussi qui ne fait pas... qui est une souris, ne fait pas un éléphant dans les histoires. Il y a des petites choses, des fois, qu'on peut se dire les uns les autres, ou dans l'Église, ou dans le monde, etc. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas toujours agréables. Et puis, parfois, le problème, c'est qu'on en fait des histoires. Mais ça, c'est pas de la noblesse de caractère. La noblesse de caractère, ça va nous encourager à dire, bon, allez... Il y a tellement de choses importantes à faire, tellement de choses importantes, tellement de choses belles à vivre dans ce monde, que les petites choses qui ne nous ont pas plu, on laisse couler, quoi. Laisse couler, voilà. Ça, c'est aussi de la noblesse de caractère. Mais je vais continuer ce matin, parce que Dieu nous demande d'être... Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'avoir cette noblesse de caractère? Parce que comme ces quatre enfants qu'on vient de voir... qui sont des rois et des reines de Narnia, nous sommes, vous êtes des rois et des reines. Ah, vous ne le saviez peut-être pas, mais nous sommes fils de rois. Dans Jean 1, verset 12, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui croient en son nom, il a parlé de Dieu, de la lumière, de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et notre Dieu est un roi. 1 Timothée 6, 15, il est appelé le roi des rois. 1 Timothée 1, 17, il est appelé le roi des siècles, seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, etc. etc., etc. Je ne lis pas tout, mais notre Dieu, notre Père, Dieu est notre Père, bien sûr, mais ce dont, sur quoi je veux insister ce matin, c'est que non seulement il est notre Père, mais qu'il est notre roi. Et si nous sommes ses enfants, vous allez me dire, il y a un seul roi, c'est Jésus, oui, c'est le seul roi qui l'était d'entrée et qui l'était de fait. Nous sommes devenus des fils et filles de rois par adoption, on est d'accord. Mais quand même, par adoption, nous sommes devenus des filles et des fils et des filles de rois, des enfants de rois. Et pour des fils et des filles de rois, le caractère doit être celui d'un prince, d'un roi. D'un futur, enfin un jour nous régnerons complètement avec lui, nous serons complètement des reines et des rois. Mais pour l'instant, nous sommes déjà des princes. Nous sommes princes, nous sommes enfants du roi des rois. Et nous, un jour, il est écrit que nous devrons régner avec lui. Alors vous voyez, quand il est dit que nous devons avoir un caractère noble, ce n'est pas pour replâtrer quelque chose, ce n'est pas pour arranger à peu près ce que nous sommes, le caractère que nous avions avant, parce que le caractère, c'est quelque chose qui se modifie. Hein. Le tempérament, ça ne se modifie pas, c'est quelque chose qu'on garde, mais le caractère, c'est quelque chose que nous sommes appelés à modifier. Et pourquoi est-ce que Dieu veut modifier nos tempéraments? Ça n'est pas pour faire du replâtrage, pour que nous devenions des gens plus relativement présentables. C'est déjà pas mal, mais je veux dire, en même temps, il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Si la modification de notre personne, de notre caractère, c'est simplement pour que nous soyons présentables, c'est tellement limité, mon Dieu, par rapport à la grâce de Dieu, c'est tellement limité que ça me semble quelque part un petit peu hypocrite. Non, non, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est avoir des caractères anoblis, que nos caractères deviennent des caractères qui reflètent le caractère du roi des rois, que nous qui sommes des rois et reines par adoption, notre caractère reflète bien le caractère du roi des rois qui est Jésus. Alors on pourrait faire une analyse du caractère de Jésus dans la Bible. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu même l'idée de le faire, mais ce dont je voudrais parler, c'est de ce caractère, donc, que Dieu nous demande d'avoir, caractère de reine, caractère de roi. C'est important que nous ayons cette noblesse de caractère, un petit peu comme ces quatre enfants. Alors, quelles seraient les caractéristiques d'un caractère noble? Où est-ce que je pourrais trouver dans la Bible ça? Alors, on pourrait prendre dans l'histoire de Narnia un magnifique, c'est un petit peu trop général, mais il y avait la douceur, il y avait la justice, il y avait la vaillance, donc la vaillance, le courage. Ça, ce sont trois caractéristiques d'un caractère noble. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y aurait pas une liste d'autres caractéristiques d'un caractère qui serait un caractère anobli par le Seigneur? Alors, l'humilité, oui. La tempérance. Alors, Delphine a trouvé la solution plus générale qui consiste à trouver ça dans Galates 5, 22, où il nous est parlé du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, donc c'est toutes des caractéristiques d'un caractère noble, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je crois que si on pouvait définir un caractère noble, on pourrait rajouter d'autres choses, hein, bien sûr. Mais que déjà, là, il y a huit fruits de l'esprit qui définiraient quand même relativement bien les contours d'un caractère de roi et de reine qui aurait été anobli par le Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on ait ce caractère-là. Vous savez, dans l'évangélisation, dans le témoignage, ce que les gens voient, c'est la puissance que nous manifestons. Si on prie pour les malades et que les malades sont guéris, c'est super, hein? Ou si on prophétise, ou si on a des paroles de la part de paroles de sagesse, etc. Donc tout ça, c'est du domaine du surnaturel, c'est super. Mais les gens s'attendent aussi que nous ayons des caractères anoblis, des caractères nobles. Ça se voit. Moi, les gens que j'ai fréquentés au lycée, les années précédentes, tous n'étaient pas chrétiens, mais certains, manifestement, avaient des caractères, je ne dirais pas faciles, mais des caractères anoblis. Parce qu'il y avait déjà, sans être chrétien, il y avait déjà de l'amour, de la joie, de la patience. Vous savez, les gens qui demandent des nouvelles, qui vous demandent toujours des nouvelles, avant de parler d'eux-mêmes, qui vous demandent des nouvelles de vous, de votre famille, etc., qui s'intéressent à vous, des gens qui sont joyeux. Il y en a qui arrivent au boulot en regardant leur godasse. Il y en a, ça peut se comprendre, hein, ça peut durer un temps, mais il y en a qui vont manifester la joie, ils arrivent en sifflotant. Il y en a d'autres, alors là, je n'ai pas voulu prêcher là-dessus, parce que ma femme serait peut-être partie, je ne sais pas. Sur la patience, par exemple, des gens qui sont patients. C'est super, moi j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui ont de la patience, parce que voilà, on a tous des points faibles, hein Monique, voilà. La patience, la bonté, la bienveillance. La bienveillance, c'est le fait de souhaiter du bien à quelqu'un. Je te souhaite du bien dans l'avenir, dans ta santé, dans ta famille, etc. Je souhaite que tout aille bien pour toi. Et je le souhaite et je te le dis. Et puis, il y a aussi la douceur. Il y a des gens qui sont doux. Alors, je ne dis pas un mou, hein. Je ne parle pas de Garfield, le gros chat qui est tout rond, là. Non, je parle de la douceur. Il y a des gens qui sont doux. Et les gens qui sont doux, c'est reposant. Moi, c'est un peu comme ça que je vis, quand je fréquente des gens qui ont une certaine douceur, un certain calme. Oh, on pose les valises et puis on prend le temps de discuter, quoi. Alors, là, il y a encore un point faible pour moi, hein. Bon, et puis on se fait tout à fait à la fin, la maîtrise de soi. Alors ça, c'est extrêmement important. On ne pète pas les plombs. Quelqu'un qui a un caractère anobli ne pète pas les plombs pour un rien. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas manifester son mécontentement. Si on n'est pas content, on ne dit pas qu'on est content. On dit qu'on est mécontent, on l'exprime, on l'analyse, on l'exprime, on essaie de dire pourquoi surtout on n'est pas content, de bien voir les raisons. Comme ça, si je ne suis pas d'accord avec Alain, ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec toi. Où est le point? Parce que si on n'a pas identifié, c'est pas le cas, hein, mais j'ai pris un exemple au hasard, parce que si on n'a pas identifié le point de divergence, ben ça donne lieu à plein de quiproquos, on ne sait pas pourquoi on n'est pas content. Donc c'est intéressant, dans la maîtrise de soi, d'apprendre à discuter avec les autres des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Voilà, donc tous les fruits de l'esprit dont on pourrait parler ce matin, parce que vous l'avez compris, nous sommes des fils et des filles de roi. Et le Seigneur veut que notre caractère soit anobli. On doit, si je comprends bien la Bible, si je comprends bien l'être humain, si je comprends bien la Bible, notre caractère n'est pas appelé à être figé. On doit progresser dans notre caractère, progresser dans nos points forts, exprimer nos points forts, pardon, les vivre, les développer. Et puis, quant aux points faibles, dans toute la liste que je viens de citer ici, si vous en aviez, vous avez peut-être repéré certains, mais dans nos points faibles, il faut qu'on apprenne à les travailler. Alors, je vais les redire comme ça. Puis, vous allez, dans votre mémoire, vous allez retenir que ceux qui vous semblent vous s'adresser particulièrement à vous. Hein. Alors, c'est l'amour, la joie, vous les avez dans Galates, mais on a le temps ici, faisons-le. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer, mais si vous avez repéré un point faible parmi tout cela, bien peut-être que c'est intéressant que dans les jours qui viennent, vous remettiez cela simplement devant Dieu, sans culpabiliser, parce que il y a une clé aussi. Il y a une clé dans le changement du caractère, et cette clé pour arriver à obéir à Dieu qui nous dit, mais anoblissez vos caractères, il y a une clé. La clé, c'est de ne pas croire qu'on va y arriver tout seul. On va y arriver avec les frères et sœurs qui vont nous aider, avec des frères et sœurs bienveillants qui vont peut-être même nous reprendre. Mais on va surtout y arriver avec la vie qui est en nous et dont on ne profite pas suffisamment. Je veux parler de la personne, la vie, je veux parler de la personne du Saint-Esprit. Il est parlé tout à l'heure, Galates 5, 22, c'est quand même bien le fruit, j'ai bien lu, le fruit de l'Esprit. Un tout petit peu plus loin dans Galates 5, mais versets 23 ou 24, je lis, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Tout seul, on peut progresser, on peut travailler sur soi. Hein. Il y a des gens qui vous aident à travailler sur vous. C'est important d'identifier ses points faibles, c'est important de travailler, c'est important de faire attention. C'est quand même dans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la décision, c'est de l'ordre du choix. Mais quand même, sachons que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous guider, parce que sinon nous n'y arriverons pas. Il y a une image que j'aime bien utiliser pour faire comprendre cela, c'est l'image du coffrage. Alors j'ai peut-être déjà utilisé ici, je ne sais plus. Le coffrage, vous savez comment ça... Maintenant ça ne se fait plus tellement. Mais avant, quand on voulait faire un mur avec du ciment, on mettait des planches. Et puis ensuite, une fois qu'on avait mis les planches et qu'on les avait bien faites tenir ensemble avec des serre-joints, là, ben on met du ciment entre les planches. Et quand on retire le ciment est sec et qu'on retire les planches, et ben on obtient un mur qui a la forme que l'on voulait, la forme des planches, forme intérieure de ce qu'on appelle le coffrage. Excusez-moi, je ne trouvais plus le mot. Mais c'est un petit peu pareil. Le ciment, ce n'est pas moi qui mets le ciment, c'est le Saint-Esprit qui va mettre le ciment. Mais c'est moi qui fais le coffrage. Parce que si je veux rester impatient, si je veux rester parfois pas forcément toujours très doux, etc., c'est à moi de décider de changer. Le Seigneur, il me demande de changer, il me demande que mon caractère soit anobli, mais il ne va pas choisir pour moi si je veux rester toute ma vie comme je suis, je peux absolument y rester pendant encore les quelques dizaines d'années qui me restent. Mais par contre, si je décide de le faire, ben je vais mettre les planches. Alors mettre les planches, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en particulier accueillir les reproches que l'on peut me faire quant à mes points de caractère qui sont défaillants. Accueillir les reproches, et pas les accueillir de haut, mais écouter, parce que les autres peuvent avoir tort aussi des fois, hein. Mais écouter ce qui nous est dit. Ensuite, c'est décider d'amener cela devant Dieu. Seigneur, voilà, je reconnais, parce que tel frère, telle sœur me l'a dit, parce que le Saint-Esprit l'a révélé en moi, je suis comme ça, je ne vais plus, Seigneur. Donc je décide. Et décider de changer, ça, c'est mettre le coffrage. Par contre, une fois que j'ai décidé de changer, c'est pas moi qui vais mettre le ciment, c'est le Saint-Esprit qui met le ciment. C'est lui qui va faire la solidité du mur, c'est pas moi, parce que ma volonté n'est pas suffisamment forte pour que ça puisse être le cas. Voilà, donc l'image du coffrage pour nous faire comprendre qu'on peut changer de caractère, on peut modifier notre caractère, mais par contre, il faut le faire en faisant des choix, on identifie les choses, on fait des choix, et ensuite on demande au Saint-Esprit de nous aider à changer. C'est l'action du Saint-Esprit qui seul pourra nous y aider. Et puis, pour terminer ce matin, je vais terminer par un des points de caractère que l'on a vu. Je vais en prendre qu'un. On pourrait faire une étude biblique pour chacun des points que j'ai cités tout à l'heure. Une étude pour chacun. Hein, autant pour l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pour chacun, on pourrait faire une étude biblique en prenant un exemple dans la Bible de personnage qui avait un caractère qui était comme ça, qui était anobli. Quelqu'un qui était, je ne sais pas, si vous voulez prendre quelqu'un, par exemple, qui était doux, eh bien, celle qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, c'était Marie-Madeleine qui a fait cela. On pourrait prendre un autre exemple de patience, qui était patient dans la Bible. Il est dit qu'il était patient plus qu'aucun autre homme sur la surface de la terre. Ah, peut-être que tu as raison, hein, mais je ne pensais pas celui-là, il est dit pour Moïse. Moïse, il n'était pas patient, c'était un impatient notoire. Et puis à la fin, il a dit de Moïse qu'il n'y avait aucun homme aussi patient que lui à la surface de la terre. Mais je ne vais pas prendre cet exemple-là, hein, pour vous dire que pour chacun, il faudrait, ce qui serait intéressant, pour chacun de ces fruits de l'esprit, de ces traits de caractère nobles, on pourrait prendre un exemple biblique de personnage. Et j'ai décidé, pratiquement ce matin, je me suis dit on va quand même prendre un exemple de ces traits de caractère puis le traiter. Alors lequel? J'ai beaucoup hésité, j'ai failli prendre la patience de Moïse, et puis j'étais un peu embêté parce que c'est mon point faible. Alors, vous savez, quand on prêche quelque chose, puis qu'on est un petit peu à côté de sa chaise, c'est toujours un petit peu, voilà, puis les gens commencent à vous regarder, et puis ils se disent, oh là là, il ose prêcher ça, lui. Donc j'ai pas osé, je l'ai pas fait, je vais pas parler de la patience de Moïse, on reverra peut-être dans quelques années. Non, je vais parler de Josué. Et qu'est-ce qui caractérisait Josué? Quel était le point de noblesse de caractère manifesté particulièrement par Josué? Josué, vous savez, c'est celui qui a fait rentrer les Hébreux dans la terre promise. Hein. Quel était son trait de caractère remarquable? Alors, il avait la foi, effectivement, mais c'était un homme qui était vaillant, c'est un homme qui avait du courage. Et c'est de ce trait de caractère-là dont je voudrais rapidement parler ce matin, c'est du courage de Josué. Josué, c'était quelqu'un qui était extrêmement courageux. Vous savez, quand ils sont allés en terre promise, ils ont envoyé des espions pour regarder si c'était dangereux avant d'envahir la terre promise. Et puis, tous les espions ont dit, oh là là là, c'est plein de géants, c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas y aller. Il n'y a que deux, Caleb et Josué, qui ont dit, non, non, effectivement, c'est dangereux, mais on va y aller quand même, parce que ces deux-là étaient courageux. Et je crois que c'est important, ce matin, moi j'ai voulu vous exhorter, je me suis dit que c'était important qu'on s'encourage les uns les autres à être courageux, à nous encourager les uns les autres. Je lis dans Colossiens 3,16, « Encouragez-vous les uns les autres ». 1 Thessaloniciens 5,11, « Encouragez-vous réciproquement ». Hébreux 13,3, « Encouragez-vous les uns les autres ». Donc quand même trois fois dans le Nouveau Testament où il est dit que nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à progresser dans ton caractère dans le domaine du courage. et encourageons-nous à, enfin, aidons-nous les uns les autres à prendre courage, surtout dans les temps qui sont devant nous. Vous savez, c'est évident, on voit bien l'économie, on voit bien tout ce qui se passe. Il faut être optimiste, oui, mais il faut être optimiste et réaliste à la fois. On est à l'entrée d'un tunnel, quoi. On est à l'entrée d'un tunnel. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler du courage? Parce que le fruit de l'esprit, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la foi. Le courage n'a pas été nommé, sauf pour Lucie, Lucie la vaillante. Lucie la petite, Lucie la vaillante, c'était la vaillante, c'est la courageuse. Courage, le courage, la vaillance, ce sont deux termes synonymes. Mais pourquoi est-ce que la foi et le courage sont liés? Pour moi, la foi et le courage sont deux choses qui sont parfaitement liées. J'ai trouvé quelqu'un qui l'a bien dit. La foi, c'est ce qui nous permet de voir la lumière au bout du tunnel. Quand on est dans le tunnel tout noir, la foi, c'est ce qui me permet de dire, non, au bout, alors peut-être au bout d'un temps très long, mais il y a de la lumière. Ça, c'est la foi. J'y crois. Par contre, le problème, c'est que je peux avoir la foi de croire qu'il y a quelque chose au bout du tunnel. C'est bien. Mais si je ne bouge pas dans l'obscurité du tunnel, ça ne me sert à rien de savoir qu'il y a la lumière au bout. On est d'accord. On est dans le tunnel, je crois que la lumière est au bout, donc je dois me mettre en marche pour avancer dans le tunnel, pour aller jusqu'à la lumière. Et ça, c'est le courage qui me donne cette capacité-là. La personne que je cite ici dit la chose suivante, « La foi nous permet de voir la lumière au bout du tunnel. » Le courage nous aide à marcher dans la nuit jusqu'au bout du tunnel. Donc les deux choses sont liées et un caractère noble, c'est un caractère qui est courageux, qui est vaillant et ce courage est basé sur la foi. Ce courage est basé sur la foi. Et je vous propose qu'on regarde ensemble comment est-ce que les Hébreux se sont encouragés à l'entrée de la terre promise. Josué et puis les Hébreux, le peuple, ils sont mutuellement encouragés et je voudrais qu'on voit comment. Parce que quand on aura vu comment eux, ils l'ont fait, eh bien on saura comment nous pourrons le faire pour les uns, pour les autres. Et pour ça, je vous propose, qui a une Bible? Levez la main. J'espère que... 1, 2, 3, 4... Il m'en faut 6. 5... 6. Allez. Alors, j'aurais pu le projeter, mais on va plutôt le lire. Donc, vous allez prendre, je vais citer les passages, et vous allez noter les uns les autres les passages, et puis les lire à haute voix. Alors, avec le masque, il faudra parler à voix assez, un petit peu plus forte, simplement. Mais on va pas, vous n'allez pas enlever les masques, je suis désolé hein, pour ça. Moi, je le fais ici parce que je suis un petit peu loin de vous. On va partir dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, Christiane, tu y es? Donc, c'est Moïse. Dans Deutéronome 31, c'est Moïse qui parle au peuple. Donc, Deutéronome 31, à partir du verset 6. Vas-y. Deutéronome 31, 6. Christiane. Merci.
Sans jamais vous abandonner.
Merci. Donc, ayez du courage parce que votre Seigneur marchera avec vous. Puisque tu es encore dans Deutéronome 31, je vais te faire encore travailler, tu vas aller un tout petit peu plus loin. Cette fois, ce n'est plus Moïse qui parle au peuple, mais c'est Moïse qui va parler, qui s'adresse directement à Josué. À peine plus loin, au verset 7. Vas-y. Encore.
Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais t'abandonner.
Merci. Merci. Alors, je reste simplement dans Deutéronome 31, où on voit Moïse qui parle d'abord au peuple, puis qui parle ensuite à Josué. Quelles sont les caractéristiques communes? Dans les deux fois, il dit « Fortifiez-vous, ayez du courage, soyez courageux ». Mais les deux fois également, il rajoute ensuite la raison pourquoi Est-ce qu'il faut qu'il soit courageux? Ou comment? Il y a une promesse, laquelle? Comment?
Tu entreras.
Tu entreras, oui, mais... Que Angéline... Excuse-moi, Jackie, hein, c'est juste, mais Angéline, c'est mieux encore. Parce qu'il marchera avec vous. Et les deux fois, ça a été dit. On passe maintenant à Josué. Donc, Moïse est décédé. Et on part dans le livre de Josué. Et c'est Alain qui va nous lire. Dans Josué 1, c'est Dieu qui parle, cette fois, Dieu qui parle à Josué. À partir du verset 5. Josué 1, 5.
Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage.
Voilà. Alors, je vais te faire travailler deux fois aussi. On est à la troisième fois. La quatrième fois, c'est à peine plus loin, verset 7.
Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse.
Voilà, merci.
Merci.
Merci. Alors, quelles sont les caractéristiques? C'est les mêmes. Fortifie-toi, pourquoi? Parce que je serai
avec toi.
Puis, ce n'est pas terminé. Je continue. Maintenant, j'arrive, je suis toujours dans Josué 1 et j'arrive au verset 9. Alors, un autre volontaire. Ou une autre volontaire en garade.
Ne t'ai pas donné cet ordre, sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras.
Merci. Et donc c'est exactement la même chose. Sois courageux parce que le Seigneur est avec toi. Donc prends courage. On reste toujours dans Josué 1. Et puis, j'en viens maintenant, c'est le peuple, enfin c'est pas le peuple, c'est deux tribus, les deux tribus ennemies, hein. C'est Gad, Manassé, et puis là, je ne sais plus leur nom. Les Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé qui s'adressent, parce qu'ils vont aider les Israélites à prendre possession du pays, puis après ils seront appelés à se retirer. Mais dans un premier temps, ils sont appelés à combattre avec leurs frères. Et voilà ce que les responsables de ces deux tribus ennemies vont dire à Josué. Donc j'en suis dans Josué 1 à partir du verset 17. Alors qui a une Bible?
Nous t'obéirons entièrement.
Jackie.
Comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout ce qui sera rebelle à ton ordre, qui ne veillera pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage.
Oui, c'est quand même assez étonnant, hein. On est à la cinquième fois. Fortifie-toi et prends courage parce que je vais marcher avec toi. Je résume, hein. Et puis, il y a encore une fois, c'est après la victoire. Dans Josué 10, 22. Josué 10 et au verset 22. Alors là, c'est l'histoire. Je ne veux pas raconter l'histoire parce que c'est trop long. Donc, Josué a une victoire importante sur des rois qui se sont opposés à lui. Et puis, il y avait cinq rois qui se sont opposés à Josué. Josué les a combattus et a gagné. Et à la fin, c'est Josué maintenant qui s'adresse au peuple. Josué s'adresse au peuple dans Josué 10, verset 25. Josué leur dit:
N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez.
Voilà, donc là, il n'y a pas marqué il sera avec vous, mais c'est écrit: Ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce modèle de courage qu'a été Josué, ce modèle de caractère anobli que Josué a été? On voit que les deux choses sont liées. Fortifie-toi et prends courage, parce que Dieu sera avec toi. Et là, vous avez une clé. C'est répété 6 fois, hein. Je vous ai fait attention, ou 5 fois selon comment on compte, plus ou moins, mais c'est répété beaucoup de fois à la fin de Deutéronome et au début de Josué. Et c'est un passage qui sont importants parce que c'est un moment important de l'histoire d'Israël, vous avez compris. Ils vont envahir les terres promises quand même. S'ils perdent, je ne sais pas ce qui se passe. Là, Dieu aurait dû appeler un autre peuple, ou je ne sais pas, mais c'est quand même un passage clé, une période clé dans la Bible, fin de Deutéronome 31 avec Moïse, et puis début de Josué avec cet homme vaillant qui était Josué. Et là, vous avez une clé, j'y viens, une clé pour vous encourager les uns les autres. Que le courage, c'est le Saint-Esprit qui le produit en moi, c'est moi qui décide d'être courageux, c'est moi qui demande à Dieu le courage, mais c'est la communauté, c'est interactif. Et comment est-ce que je peux encourager quelqu'un? La plus belle façon d'encourager quelqu'un, ça peut être par mon comportement. Il y a des façons d'être. Si je suis pour encourager les autres, il ne faut pas que je sois terré sous la chaise, quoi. Évidemment, quelqu'un qui, un leader, c'est quelqu'un normalement qui est devant. Et qui, tout le monde peut être effrayé, mais qui quand même à un moment donné va montrer l'exemple en passant devant et en continuant d'avancer malgré le danger. Mais il y a une autre façon d'encourager les autres, c'est simplement de leur dire que Dieu soit avec toi. Le plus bel encouragement que je peux faire à quelqu'un, c'est Cyril, que Dieu soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage parce que moi, il sera avec toi, mais je veux quand même prier pour qu'il le soit encore plus. Que Dieu soit avec toi. Ça, c'est la plus belle façon d'encourager quelqu'un, c'est de prier pour que Dieu soit avec lui, c'est de lui dire que Dieu est avec lui. Alors vous allez me dire, mais il n'est pas toujours avec nous, parce que quand on fait des bourdes, il n'est pas toujours là. Ben, c'est pas vrai, non. Dieu est toujours avec nous. À partir du moment où on est enfant de roi, c'est comme un Narnia, hein. Quand on était roi à Narnia, un jour, on est roi et reine pour toujours. Ça ne change pas. Quoi que je fasse, bêtise, bourde, et on en fait tous, ben je reste roi. Je reste roi. Je reste roi, fils de Dieu, avec un caractère qui me demande, qui doit être anobli. Et je reste roi, quoi que je fasse. Mais, bien sûr, c'est les sentiments de Dieu, pour moi, qui n'ont pas les mêmes. Le Saint-Esprit, il est quand même bien écrit qu'il peut être attristé. Et quand on dit qu'il est attristé, ce n'est pas simplement « Oh ben zut, qu'est-ce qu'il a encore fait, quoi ?» Non, c'est quand le Saint-Esprit est attristé, je pense qu'il souffre. Hein. C'est une souffrance profonde. Vous savez, il est écrit que plus on a de sagesse, et plus on souffre. C'est le problème. Hein. Vaut mieux être bête, on souffre le moins, à la limite. Non, je bête, je parle pas des capacités intellectuelles. Hein. Je parle du... voilà. Plus vous êtes sage, plus vous avez compris de choses sur les choses de Dieu, sur les choses du monde, sur les choses de la vie, et plus vous souffrez. C'est peut-être pour ça, hein, Jackie, que quand on devient vieux, on a l'impression que quand il arrive quelque chose, on souffre plus qu'avant. Enfin, moi, c'est un peu le... Je dis à Jackie, parce qu'il me sent... Non, Alain aussi, puis quelques-uns. Mais le vieillard... La souffrance du vieillard, c'est qu'on s'affaiblit, on devient plus sage normalement, mais en même temps, la souffrance est plus forte aussi. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il faut bien quitter ce monde, parce que sinon, je ne sais pas où on irait. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que pour s'encourager les uns les autres, c'est important de se dire, mon frère, ma sœur, fortifie-toi et prends courage, parce que Dieu est avec toi. Et est-ce qu'on peut le faire pendant le moment de Sainte-Seine, Delphine, ou se le dire, ça, ou t'as pris, je ne sais pas ce que tu as prévu, ou tu préfères que je le fasse moi-même, le moment de prière, c'est comme tu veux.
Vas-y.
C'est bon. Alors, on va prier, et puis on va se lever, et puis on va se dire les uns les autres, en se regardant droit dans les yeux et sans loucher, mon frère, ma sœur, je prie que Dieu soit avec toi. Je vous propose peut-être, on va pas se mettre par petits groupes parce que, ou alors des petits groupes familiaux, c'est pas le moment de casser les petits groupes qu'on a fait au début, mais on va se le dire d'abord dans les petits groupes familiaux peut-être, puis ensuite on peut regarder le voisin, la voisine qui est un petit peu plus loin et puis lui dire ça c'est pour toi aussi, en faisant, par un signe par exemple. Ça va? Allez. Amen, amen, amen. Amen, on peut se bénir, on peut s'encourager à distance aussi. Amen. Angéline. David, de loin. David. Courage. Patricia. C'est pas grave.
Qu'est-ce que j'ai retrouvé dans ma Bible?
Alors attends. Gera de Yetz. Trois devant, d'accord.
C'est l'église évangélique allemande.
D'accord.
Je vais récupérer. Fonce, ça veut dire.
Dein Kreuz zählt. Fonce. Amen. Merci Alain, il me montrait un petit papier où il est. C'est une église qui nous encourage à avancer. Rappelez-vous de cette image du tunnel. Hein. La foi, c'est ce qui me donne de croire qu'il y a un bout du tunnel, qu'il y a une lumière, que les difficultés ne seront pas éternelles. Mais en même temps, j'ai besoin de courage pour pouvoir avancer et que Dieu veut anoblir le caractère. Voilà, excusez-moi, c'était un peu décousu, mais c'était plus. C'est des choses qui ont été plus reçues qu'étudiées.